Revue exceptionnelle déjà disponible en kiosque et en librairie. Et ce soir, sur Arte, une grande émission spéciale élection européenne dès 20h55 pour comprendre les enjeux au cœur de la campagne. Arte.tv, la plateforme libre.
Et sur France Inter, il est 19h. Bonsoir avec nous, le journal c'est Hélène Philly. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. De nouvelles manifestations de soutien à la cause palestinienne sur plusieurs sites universitaires, des instituts de sciences politiques, blocage, sit-in. La ministre de l'enseignement supérieur convoque une réunion jeudi avec les présidents d'universités, tandis qu'au Proche-Orient, Israël met la pression et un ultimatum au Hamas. L'actualité, c'est encore un 1er mai moins fourni attendu demain dans les rues. La campagne des européennes, pour la première fois, Ursula von der Leyen ouvre la porte à une alliance avec l'extrême droite. Nous sommes sur les terrains de foot où les arbitres seront sonorisés la saison prochaine. Et puis à Stuttgart, en Allemagne, le coût de la gare déraille, la facture dépasse les 11 milliards d'euros. Au téléphone sonne le rapport sur les enfants et les écrans. Vos témoignages 01 45 24. 47 000.
France Inter.
Ce sont de petits groupes à chaque fois, mais ils commencent à se multiplier dans les instituts de sciences politiques et sur plusieurs sites universitaires. Des étudiants mobilisés pour la cause palestinienne, une trentaine ce matin à Saint-Étienne, une quinzaine à Dijon, à Grenoble, ils étaient une centaine sur les voies du tramway et 150 dans la cour de Sciences Po Lyon où était Christophe Vincent.
Ils se sont rassemblés dans la cour de l'Institut d'études politiques, dans le calme, des étudiants à Sciences Po ou en fac, certains coiffés d'un keffieh. Beaucoup sont venus spontanément, comme Kylian et Jade.
L'idée, je pense, c'est s'inscrire dans un mouvement qui a été impulsé à Paris, à Sciences Po Paris et à Paris-Sorbonne hier et puis les jours qui ont précédé. L'idée, je pense, de ces étudiants, elle est animée par une seule conviction, c'est celle de la solidarité et de l'humanisme. Et c'est un mouvement qui concerne les étudiants de Sciences Po en premier lieu, mais comme vous pouvez le voir, c'est un lieu public, donc chacun peut venir s'y joindre.
Et ça n'a pas mené à des tensions extrêmes. Et l'important, c'est surtout de faire entendre la parole de la voix palestinienne au sein de nos débats et discours.
Étudiants à Sciences Po, Angèle, Yann et Leïla souhaitent que le mouvement monte en puissance.
Déjà qu'il y ait un rassemblement dans la cour et qu'il y ait autant de monde, ça veut dire quelque chose.
C'est que le début, et donc s'il y a un blocus de prévu, on le rejoindra avec plaisir pour que ça ait plus d'impact. Peut-être que ça fasse réagir au plus haut.
Je pense que ça pourrait avoir un vrai impact si c'était bloqué pendant nos examens, et ça serait bien.
Un autre rassemblement a eu lieu en fin d'après-midi devant l'université Lyon 3. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Les campus de Tolbiac et de Sciences Po à Menton sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Après l'occupation des locaux, la ministre de l'Enseignement supérieur annonce une réunion jeudi avec les présidents d'universités pour prendre des mesures contre ces blocages. Alors qu'au Proche-Orient, Israël donne au Hamas jusqu'à demain soir pour répondre à l'offre de trêve, une proposition de 40 jours. En échange de la libération d'otages, plus de 130 seraient toujours retenus dans la bande de Gaza par le Hamas. Des milliers de personnes manifestent chaque semaine à Tel Aviv pour qu'on ne les oublie pas. Michel Paul, bonsoir.
Bonsoir Hélène,
vous êtes en direct de Jérusalem, Michel, le Premier ministre israélien qui préfère menacer aujourd'hui avec cet ultimatum et toujours la promesse d'une offensive sur Rafah.
Oui, alors Hélène, c'est toujours l'attente d'une réponse du Hamas ici. Elle pourrait se prolonger, indique-t-on, jusqu'à demain soir. C'est une forme d'ultimatum qui est lancée par Israël. À ce stade, en tout cas, l'équipe des négociateurs israéliens ne se rend toujours pas au Caire pour finaliser le plan en deux parties qui a été proposé par Israël. Première étape de ce projet d'accord, une trêve de 6 semaines, la libération de 33 otages pour raisons humanitaires en échange de centaines de détenus palestiniens. Ensuite, ce sera un arrêt des combats sans limite dans le temps et la libération des autres otages. Israël aurait renoncé également à son projet d'empêcher le retour des réfugiés gazaouis vers le nord de l'enclave palestinienne. Alors, ce sont des éléments qui ne sont pas confirmés de sources officielles en Israël, mais qui suscitent en tout cas des réactions très fortes de l'extrême droite israélienne qui menace de faire tomber le gouvernement. Pour le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, il s'agit d'un accord désastreux qui présente même un danger existentiel pour Israël. Et face à ces déclarations, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rétorque qu'Israël entrera dans la ville de Rafah avec ou sans accord de trêve avec le Hamas.
Michel Paul en direct de Jérusalem, le chef de la diplomatie française, qui a dit aujourd'hui à Benjamin Netanyahou qu'une offensive à Rafah est une mauvaise idée, ça ne va pas régler les choses. Au contraire, juge Stéphane, ces journées en visite en Israël.
Et l'on pourrait aussi entendre des slogans pro-palestiniens demain dans le cortège du 1er mai.
Traditionnel défilé organisé par les syndicats pour défendre les droits des travailleurs, le ministère de l'Intérieur s'attend à des rassemblements moins fournis que pendant la réforme des retraites, entre 120 000 et 150 000 dans toute la France, avec des cortèges plutôt familiaux, Ariane Grissel.
Même s'il y a encore cette année des sujets de mécontentement, comme la réforme de l'assurance chômage ou les mesures budgétaires, la mobilisation sera effectivement bien loin des 800 000 participants recensés l'an dernier en pleine réforme des retraites par le ministère de l'Intérieur. Cette année, 15 à 30 000 personnes sont attendues à Paris, 5 000 à Lyon, 4 000 à Toulouse, autour de 2 000 à Bordeaux ou Montpellier, tandis que les rues de Rennes ou Strasbourg devraient voir défiler environ 1 500 manifestants. Dans la capitale, les services de renseignement s'attendent à la présence de 400 à 800 militants décidés à s'en prendre aux symboles du capitalisme et au mobilier urbain, dont certains venus de l'étranger, des membres de groupes d'ultra-gauche également présents dans des villes comme Lyon ou Grenoble. Mais dans l'ensemble, les cortèges s'annoncent nettement plus apaisés et festifs que l'an dernier. Des défilés qui pourraient servir de tribune aux militants pro-palestiniens et aux opposants aux Jeux Olympiques. Plusieurs appels sont lancés sur les réseaux sociaux par différents collectifs pour dénoncer un rendez-vous présenté comme une catastrophe sur le plan social et écologique.
Ariane Grissel, ce 1er mai qui est le premier de 4 jours fériés du mois de mai, un mois à trous, pas toujours simple à organiser pour les entreprises. Christophe Beck, France Bleu, Belfort, Montbéliard.
Sur le chantier du nouveau centre culturel de Montbéliard, on s'interroge sur ce mois de mai en forme de gruyère.
Il y a toujours eu plus de jours fériés que le reste, mais bon, là, avec tous les ponts, je vois nous, la semaine prochaine, on bosse lundi, mardi, quoi. Puis on reprend 5 jours tranquilles chez nous. C'est quand même pas mal. Pour les salariés, c'est bien. Le patron, un peu moins, je pense.
Pour le bien de leur entreprise, certains salariés acceptent de sacrifier quelques-uns de ces jours chômés.
On s'arrange avec notre patron pour pouvoir travailler un peu plus, quoi.
Alain, chef de chantier pour l'entreprise de menuiserie Viro, à Colombier, en Haute-Saône.
Ah oui, parce que ça fait pas beaucoup de travail hein, dans un mois de mai. Hein. D'accomplir un peu le travail un peu partout, parce que ça fait du retard.
À la ferronnerie d'Arc, 1538, qui emploie 5 salariés à Vieux-Charmont, comme dans beaucoup de PME, on a pris les devants.
C'est l'anticipation, et voilà, c'est le leitmotiv en fait, du mois de mai.
Irène Mère-Ballet soulève une autre spécificité du mois de mai, qui s'ajoute à ces ponts successifs.
Mais la petite particularité que l'on doit vivre tous les ans avec le mois de mai, c'est aussi le solde des congés. Et qui vient là avec l'avantage de tomber les mercredis, c'est que quand il y a des personnes qui vont poser 2 jours, ils vont se retrouver avec une semaine complète de congés.
Des patrons embarrassés, mais des salariés heureux.
Oui, non, là, c'est une bonne année. Ça tombe bien.
Un reportage signé Christophe Beck. Cette fois, ils prennent la parole et en nombre, une centaine d'hommes du monde de la culture, dont le réalisateur Jacques Audiard, Reda Kateb, Soi Marlow ou encore Mathieu Amalric signent cette tribune dans le magazine Elle pour apporter leur soutien au mouvement MeToo. Il est révoltant que le théâtre et le cinéma servent de couverture à des abus qui n'ont rien à voir avec l'art, écrivent-ils. Un texte initié par le mathématicien Michel Brou, compagnon d'Anouk Grimbert, selon le magazine. Quand Ursula von der Leyen brise un tabou, la présidente de la Commission européenne, candidate à sa réélection, ne s'interdit plus une alliance avec l'extrême droite, le groupe de l'italienne Giorgia Meloni, celui de Marion Maréchal aussi. Ça dépendra du résultat des élections, dit Ursula von der Leyen, et c'est la première fois qu'elle le formule ainsi, même si l'hypothèse circule depuis un petit moment en coulisses, Frédéric Saïs.
Ce serait un renversement historique. Jusqu'ici, au Parlement européen, la droite formait des majorités de compromis avec les socialistes et les centristes. Mais Ursula von der Leyen anticipe un nouveau rapport de force avec une poussée des nationalistes, en particulier de ce groupe qui rassemble les proches de Marion Maréchal et de Giorgia Meloni, la très droitière première ministre italienne, mais aussi les ultra-conservateurs espagnols et polonais. Ce groupe pourrait devenir, selon les sondages, la troisième force politique du Parlement européen. Voilà pourquoi Ursula von der Leyen n'exclut aucune hypothèse, d'autant plus prudente qu'elle est affaiblie. L'ancienne ministre allemande, contestée pour sa pratique solitaire du pouvoir, ne fait pas l'unanimité, ni chez les centristes, ni même au sein de sa propre famille politique, la droite conservatrice. Si elle veut à tout prix rempiler à la tête de la Commission européenne, elle risque donc de ne pas avoir vraiment le choix quant à ses alliés.
Et dans ce débat, la droite française n'a que peu d'influence. Les sondages ne lui offrent pour le moment qu'entre 6 et 8 sièges. Et comment faire coexister toutes les nuances de droite au sein de la liste emmenée par François-Xavier Bellamy. La liste dévoilée aujourd'hui confirme des indéboulonnables, Nadine Morano et Brice Hortefeux en position éligible. Bonsoir Marie Mollet.
Bonsoir.
Et ça fait grincer des dents.
Oui, qu'ils étaient nombreux chez LR à espérer les voir partir. Les deux anciennes gloires de Strasbourg, comme les appelle un député. Brice Hortefeux, Nadine Morano, deux anciens ministres, époque Nicolas Sarkozy, que certains croyaient sur un siège éjectable, reconduit pourtant devant d'autres députés sortants, jugés plus sérieux et travailleurs en interne. La décision est celle du patron du parti, Éric Ciotti. Le choix d'une liste n'est jamais facile, se défend son entourage. On a tenté de trouver un équilibre entre renouvellement et les sortants. On a consulté. Brice Hortefeux, notamment, était soutenu par Laurent Wauquiez. Nadine Morano, elle se hisse à une jolie sixième place et à l'entendre, elle n'a certainement pas à s'en excuser.
Alors là, des commentaires en disant ils n'ont pas travaillé ou ci ou ça, ça c'est faux. Parce que moi, par exemple, je siège dans la commission qui se réunit le plus au Parlement européen, qui est la commission des libertés. Vous savez, il y a des gens qui m'aiment bien, il y a des gens qui m'aiment moins, c'est normal. Certains sont attachés à mon franc-parler. J'ai une vision pour l'Europe. Je considère que mon travail et ma personnalité est reconnue dans ma famille politique. Et ben, je m'en réjouis.
Il n'empêche, ces nominations ont provoqué une avalanche de critiques. Le message est catastrophique, s'étrangle une figure LR. On veut récupérer les électeurs de Macron et là, on envoie des repoussoirs. D'autant qu'un autre nom a fait tousser en interne. Place numéro 5, un inconnu, Laurent Castillo, surnommé dans le parti le cardiologue de Nice, inconnu mais proche d'Éric Ciotti, qui passe donc devant des eurodéputés sortants, relégués en zone de danger au-delà de la 10e place.
Merci Marie Mollet. Deux infos à l'étranger, à Londres. Un homme armé d'une épée s'en est pris à plusieurs personnes, rapidement arrêté par la police, qui exclut un acte terroriste. Un garçon de 14 ans a été tué. Et puis le G7, c'est une première, se met d'accord sur une date pour la fin des centrales à charbon. Il faut que ce soit fait d'ici à 2035, sauf si les pays, si ces centrales disposent d'un système de captage de carbone. Et puisqu'on parle de ce qui change et dans le bon sens, M6 se lance dans la mode éco-responsable. Après avoir fait un carton avec les reines du shopping, la chaîne lance une nouvelle émission. On refait la mode à partir du 15 mai sur la plateforme dans sa version longue. Et dès maintenant, une pastille courte tous les jours à 19h35 sur cette idée. Rien ne se jette et tout se transforme. Alexandra Hakoun.
Nous allons vous montrer comment donner une deuxième vie à votre garde-robe.
Oubliez la fast fashion, ces vêtements quasi jetables devenus fléaux écologiques. Avec On refait la mode, présenté par Erika Moulet et l'influenceur Sega Kanouté, l'idée c'est de proposer des solutions simples et vertueuses pour limiter l'impact de nos vêtements sur la planète. Commencez par faire le tri par exemple.
La première chose à faire, c'est de vider entièrement son placard et de faire 4 tables.
Après des années d'émissions magnifiques, portées notamment par Christina Cordula, c'est un véritable changement de braquet pour M6. Fonchon Le Boulchi est la directrice du Pollen Limited en charge des opérations spéciales.
En tant que chaîne qui avons en notre temps poussé, on va le dire, à la fast fashion, avec les émissions de Christina, avec Nouveau Look, et là, on a pris conscience que c'était plus du tout dans l'air du temps.
Et pour être sûr de distiller les bons conseils, la chaîne s'est associée à ReFashion, éco-organisme de la filière textile qui ne jure que par la règle des 5 R.
Les 5 R qui sont un mémo technique très simple de faire bien les choses.
Sandra Baldini, directrice marketing de ReFashion.
Réparer, réutiliser, recycler, réduire et restyler. Et nous, on est ravis que ces messages-là se diffusent le plus largement possible.
Pour l'instant, seules 8 émissions ont été tournées, mais si l'audience est au rendez-vous, On refait la mode pourrait revenir à la rentrée sur M6 de façon plus pérenne.
Les Français qui consomment de nouveau, la reprise est modeste, mais elle se confirme sur plusieurs mois grâce à de timides baisses de prix dans les supermarchés notamment. L'inflation ralentit encore 2,2% sur un an contre 2,3% en mars. Le produit intérieur brut progresse de 0,2% selon l'INSEE et le ministre de l'économie y voit le signe de la solidité, dit-il, de l'économie du pays.
Et voici une gare à 11 milliards d'euros.
Celle de Stuttgart, la 6e ville d'Allemagne. C'est l'un des projets les plus ambitieux du pays, mais aussi l'un des plus coûteux et controversés. Elle devait voir le jour en 2019, mais les travaux ne sont toujours pas terminé. La Deutsche Bahn, la compagnie ferroviaire allemande et ses partenaires s'affrontent aujourd'hui devant les tribunaux pour savoir qui paiera la facture. Bonsoir Sébastien Baer.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Berlin car les coûts de ce chantier pharaonique ont explosé.
Oui, à son lancement, au milieu des années 90, le projet était estimé à 2,5 milliards d'euros, mais année après année, les coûts se sont envolés. 4,5 milliards en 2009, 6 milliards en 2011, 10 en 2022. La dernière estimation dépasse désormais les 11 milliards, soit 4 fois le montant de départ. La facture a enflé en fait au fur et à mesure que les travaux prenaient du retard, car sur le chantier, les difficultés se sont accumulées. La construction des colonnes qui doivent donner à la gare l'allure d'une belle cathédrale du 21e siècle a été plus compliquée que prévu, tout comme les opérations de forage et la numérisation. La Deutsche Bahn, la compagnie ferroviaire allemande, s'est tournée vers ses partenaires pour partager le surcoût, mais la ville, la région et l'aéroport refusent de payer davantage. La gare devrait être inaugurée fin 2025, vous l'avez dit, avec 6 ans de retard sur le calendrier prévu. Cela signifie que le chantier aura duré près de 16 ans, un nouveau record qui vient presque faire oublier les 14 années de construction de l'aéroport de Berlin. Quand elle sera enfin mise en service, la gare, qui ne sera plus un terminus, mais une gare de transit, placera Stuttgart au cœur d'un axe ferroviaire Est-Ouest, 2500 km entre Paris et Budapest.
Sébastien Baer en direct de Berlin, une gare à 11 milliards d'euros à comparer par exemple avec le budget total des JO de Paris, 4 milliards 400 millions d'euros, construction d'infrastructures comprises. Le ministre de l'Intérieur annonce aujourd'hui qu'il y aura 1900 gardes-frontières pour renforcer la sécurité des aéroports et pour lutter notamment contre les taxis illégaux. Cette fois, c'est confirmé sur les terrains de football. Les arbitres seront sonorisés pour tous les matchs de Ligue 1 la saison prochaine. Et cela leur permettra d'expliquer en direct certaines de leurs décisions, Fanny Lechevestrier.
Avec un objectif, faire de la pédagogie et améliorer la communication entre le public et des arbitres bien trop souvent chahutés. Concrètement, l'arbitre allumera son micro pour livrer ses explications en direct sur des cas précis, après appel à l'assistance vidéo pour valider ou non un but, une position de hors-jeu, un pénalty ou sur une erreur d'identité dans l'attribution d'un carton, soit des interventions 2 à 3 fois par match en moyenne, un peu à la manière de ce qui se fait depuis longtemps en NFL, le championnat de football américain. Sur cet extrait, l'arbitre est au milieu du terrain, tourné vers les tribunes pour expliquer au micro sa décision. Tous les arbitres de Ligue 1 ont d'ores et déjà été formés pour s'adresser au public. Mais pourquoi pas une sonorisation tout au long du match qui permettrait d'entendre aussi à la télévision les échanges entre joueurs et arbitres, un peu comme au rugby. La Fédération française de football a jusqu'à maintenant toujours essuyé un refus de la part de la FIFA, l'instance internationale.
L'affiche de foot ce soir, c'est Bayern Munich-Real Madrid, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Le coup d'envoi du match sera donné à 21h à Munich. Allez, on file à New York et pour parler d'Albi, la commune du Tarn, qui vient de s'offrir un spot de pub sur les écrans géants de Times Square. Rien que ça, 15 petites secondes pour vanter la beauté de la ville, attirer les touristes. L'idée est de Julien Estrada, le community manager de l'office de tourisme d'Albi. Il est fan de jeux de mots aussi, vous allez l'entendre. Il raconte à Jra Mohamed.
C'est tout simplement un ami qui a fait son voyage en janvier dernier et qui souhaitait faire une surprise à sa compagne pour son anniversaire. Et donc, il a utilisé une application qui permet de mettre en avant, sur un court format de 15 secondes, une vidéo donc sur les écrans de Times Square pour la modique somme de $40. Et de suite, ça a fait tilt. Hein. On s'est dit pourquoi pas se lancer à l'aventure et de proposer une petite vidéo de 15 secondes sur les écrans de Times Square. Et donc, pendant ces 15 secondes, on a pu voir la cathédrale avec le palais de la Berbie, le pont vieux, et bon, on espère en effet recevoir peut-être des appels d'Américains qui auront vu ces quelques secondes et qui viendront découvrir Albi. Et en effet, Albi's Are For You, on assume totalement, c'est pour la petite référence, le clin d'œil à Friends, le Central Perk, et voilà, en espérant que ça leur parle, et en tout cas, nous dans la rime, ça parle.
Non, vraiment.
On retient le conseil, $40 les 15 secondes.
C'est pas cher.
Ça vaut le coup quand même.
Merci.
Je vous laisse là-dessus.
Bah oui, et je m'en vais le faire là tout de suite pour mes petits $40. Merci beaucoup. Hélène, vous reviendrez demain. On parle d'écran et d'enfants dans un instant sur France Inter et dans le téléphone sonne. Grâce à vos nombreux appels avec les deux présidents de la commission écran justement qui vient de rendre ses conclusions. Un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster.
toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Élodie Callac, encore des pluies ce soir.
Oui, et des orages possibles aussi sur le nord-est et au nord de la Seine avec un risque de grêle. Il s'estompe progressivement dans la nuit. Demain, ce sera très agité, pluvieux sur une grande partie ouest et sud. Les pluies seront parfois copieuses de la Provence vers le Massif central et la Normandie. Elles prendront un caractère orageux pour l'après-midi. Des éclaircies appréciables reviendront tout de même sur la façade ouest. Sur les Alpes frontalières, beaucoup de neige au-dessus de 2000 mètres. La limite pluie-neige s'abaissera vers 1000 à 1500 mètres sur les Pyrénées. Sur le nord-est, jusqu'à la région parisienne et au Hauts-de-France, beaucoup de nuages. Du soleil tout de même sur l'est de la Lorraine et l'Alsace. Et puis dans l'après-midi, des orages forts se déclencheront sur la Bourgogne-Franche-Comté avec de la grêle, des pluies importantes. Et ces orages remonteront vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France et les Ardennes pour la soirée.
Et il fera plus frais sur l'ouest et sur le sud.
Oui, ça baissera sous les pluies. 10 degrés seulement à Tarbes demain après-midi, 13 à Bordeaux, 14 à Cherbourg, Nantes, Limoges, Toulouse, 17 à Bourges et à Marseille, mais 21 degrés à Paris, à Dijon, à Grenoble, 22 à Lille et encore 26 à Strasbourg.
Élodie Callac de Météo France, merci beaucoup.
France Inter, 9h20. Léa Salamé.
Ce mercredi, je reçois Juliette Binoche. Elle incarne une Coco Chanel sur le déclin, aux prises avec son destin dans la nouvelle série The New Look.
L'interview de 9h20, tous les matins dans le 7-10 de France Inter.
Et il est 19h20.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Force d'entendre dire attention aux écrans pour les enfants, à force d'entendre attention danger, mais au fond, un peu sans savoir de quoi on parle. Le président de la République a voulu en janvier dernier installer une commission d'experts pour répondre à ces questions, pour évaluer réellement les enjeux. Eh bien, elle vient de rendre ses conclusions après avoir rencontré 150 jeunes et une centaine d'experts. Et ces conclusions, qui sont des recommandations parfois très précises, notamment avec ce qu'on appelle les bornes d'âge. Pas d'écran avant 3 ans, un usage déconseillé jusqu'à 6 ans ou fortement limité, supervisé par un adulte. Après 6 ans, ne pas lâcher la rampe, l'exposition doit rester modérée. Pas de téléphone portable avant 11 ans, l'âge d'entrée en 6e. Après 11 ans, pas de connexion Internet sur son téléphone. Après 13 ans, pas d'accès aux réseaux sociaux, aux contenus illégaux. Et à partir de 15 ans, attention, nous sommes en majorité numérique, accès limité à ceux qui ont une conception éthique. Et on parlera de ce qu'on peut entendre à l'idée de réseaux sociaux éthiques. On ne parle pas forcément que d'écrans qui auraient des conséquences sur le neurodéveloppement. Là-dessus, les experts sont clairs et honnêtes, surtout. Les études ne nous disent pas en l'état que l'exposition ralentit le développement neuronal. Mais ce rapport nous parle de manque de sommeil dû aux écrans, de sédentarité, donc d'obésité. Ce rapport, il nous parle de contenu, de ce à quoi les enfants sont exposés, des images violentes, des images porno, des images stéréotypées. Le rapport nous parle de biais cognitifs pour enfermer les enfants sur leurs écrans à des fins bassement économique. Et surtout, tout cela veut dire que limiter l'accès aux écrans pour n'en garder que le meilleur, c'est-à-dire ne pas continuer plutôt à leur nous donner accès à la connaissance et pousser aussi tous les acteurs de la société, les parents, les enseignants, les créateurs de contenu, les administrations, à balayer devant leur porte. Allez, les deux auteurs de ce rapport sont avec nous, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Camille est avec nous, bonsoir Camille. On vous écoute. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors, donc je m'appelle Camille, j'ai 24 ans et je suis née donc en 2000 et j'ai commencé à avoir mes premiers smartphones vers 13-14 ans. Donc ce n'est pas forcément comme les enfants d'aujourd'hui qui peuvent en avoir dès l'âge de 3 ans. Et avec mes amis, on avait une discussion récemment sur l'impact que ça avait eu sur nous-mêmes, voilà, depuis qu'on avait un smartphone, les changements que ça avait pu entraîner sur nous et notamment sur la concentration. On avait remarqué que depuis qu'on avait un portable, enfin, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup plus de difficultés à rester concentrée. Quand j'étais petite, je lisais énormément. Et là, bon, je lis toujours, mais beaucoup moins. Enfin, le soir, voilà, je vais être sur mon portable. Enfin, c'est plus simple, entre guillemets, d'aller sur les réseaux sociaux plutôt que de prendre un livre, quoi. Et voilà, et même juste, tout simplement, ça a développé une vraie addiction au portable. Et voilà.
Et est-ce que, Camille, cette prise de conscience-là, y compris vous qui avez 24 ans, donc vous avez non seulement pleine conscience, mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre téléphone, est-ce que vous vous êtes dit, ok, donc je le lâche plus souvent, ou je m'oblige à le fermer à partir d'une certaine heure, je m'oblige à reprendre un bouquin pour retrouver ce plaisir que j'avais quand j'étais plus jeune? C'est quoi votre conclusion? Ou est-ce que c'est rude et difficile, en fait, de le laisser tomber, même pour vous?
En fait, c'est terrible, parce que d'un côté, on est conscient de cette addiction, Et même, enfin, je regarde des documentaires, je lis des choses autour de ça. Donc, et bien sûr, j'essaie de mettre en place des choses. Par exemple, j'essaie de ne pas regarder mon portable avant de dormir. Enfin, j'essaie de limiter mon temps. C'est paradoxal, mais il y a des applications qui existent pour ça. Mais c'est vrai que ça reste difficile. Et je pense que c'est une véritable addiction, quoi. Après, bon, il y a des moyens. On peut réussir à s'en distancer. Mais c'est, le portable est aussi devenu un outil de travail. Par exemple, en tant qu'étudiante, on l'utilise aussi pour travailler, etc. Donc c'est dur de totalement s'en détacher, quoi.
Alors, on va essayer de trouver le milieu, justement. Camille, merci beaucoup pour l'entrée en matière. Merci pour votre appel pour discuter ensemble et avec vous jusqu'à 20h. Il y a Servane Mouton, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes neurologue. Il y a Amine Benyamina, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre et vous êtes addictologue. Et tous les deux, vous co-présidez cette fameuse commission écran dont on parlait. Vous en avez rencontré beaucoup des Camilles, en fait. Amine Benyamina, il y en a eu 150 des jeunes que vous avez rencontrés.
Alors Camille a 24 ans, on a rencontré plus jeune.
Okay.
Mais les témoignages comme Camille, on les connaît. Mm-hmm. Et je dois vous dire que Camille a 24 ans, elle est pratiquement une génération qui est à moitié épargnée. Mm-hmm. Parce que nous avons des plus jeunes que Camille, et là la question se pose avec acuité. Est-ce qu'elle a témoigné? Et somme toute, quelque chose d'assez, hélas, banal. Mm-hmm. Il y a un élément intéressant, c'est qu'elle a pris conscience, elle dit, de mon addiction à l'écran. Évidemment, la notion...
Ben vous êtes addictologue, est-ce que c'est le mot que vous employez aussi pour les écrans ou pas?
Alors,
ou est-ce qu'on va un peu vite
C'est-à-dire, si vous me demandez, en tant qu'académique, s'il y a une addiction aux écrans, je vous dis, c'est pas l'écran qui pose problème, c'est le contenu.
Ouais.
Et puis, on a une classification qui parle du jeu, par exemple. En revanche, lorsque vous me titillez un tout petit peu sur le mécanisme par lequel les réseaux sociaux ont construit une économie de la captation...
Les fameux biais cognitifs dont vous parliez, ça pour le coup...
Complètement. On vient stimuler un système qui est le même que celui que stimule le tabac, l'alcool ou le cannabis. Donc on est sur une démarche où plus on est sur l'écran, et plus les concepteurs de cet algorithme et de ce programme gagnent de l'argent pour faire court.
Mais est-ce que c'est ça, Servane Mouton, et peut-être qu'il faudra essayer de le définir pendant cette émission, est-ce que c'est le temps passé qui pose problème ou est-ce que c'est ce à quoi on est exposé, donc le contenu? Alors vous allez me dire, les deux, mon capitaine, mais quand même, est-ce qu'au fond, c'est vraiment le fait de passer du temps qui pose problème ou c'est le fait que, comme le dit Camille, on se vide le cerveau à regarder un peu n'importe quoi?
C'est quand même un petit peu les deux, mon capitaine, en effet. Et après, il faut réintroduire la notion d'âge et d'équilibre avec aussi d'autres activités. Le processus addictif en lui-même n'est pas lié au temps qu'on y passe, puisque il implique, et Amine en parlerait mieux, mais le fait d'activer le système de récompense, donc, et d'être en permanence en train de lutter contre l'envie d'y aller, une espèce d'obsession envers vers cette source de plaisir, etc. Donc, et ça, on peut, je sais pas, quelqu'un qui a un problème d'alcool va avoir peut-être résisté à ne boire qu'un seul verre, mais y penser en permanence, il est quand même addict à l'alcool. Alors, encore une fois, le lien avec l'addiction aux réseaux sociaux est peut-être aujourd'hui trop précoce, on n'a pas à être reconnaissant,
mais
en tout
cas,
on entend ce type.
Ça permet de bien comprendre effectivement ce que vous êtes en train de nous expliquer. Est-ce qu'on parle de la même chose pour les parents qui nous écoutent, Amine Benyamina? Est-ce qu'on parle de ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, par exemple, de ce qui peut être addictif, les réels, etc., qu'on voit défiler? Ou est-ce qu'on parle aussi d'un dessin animé sur un iPad, par exemple? Est-ce que ça dit la même chose, ça?
Alors, ça dit peut-être pas la même chose, mais les dommages liés à l'écran sont tout à fait comparable. Le dessin animé sur écran, vous l'avez dit d'entrée de jeu, d'ailleurs on peut partir, vous avez tout dit, hein, au passage, Fabienne.
Allons-y.
Vous avez tout dit.
Allons boire un coup.
C'est ce que nous avons évidemment découvert, peut-être pas Servane, mais moi en tant qu'addictologue, c'est tous les effets liés au produit, c'est-à-dire la lumière bleue, l'absence des difficultés de concentration, le fait de commencer tôt et devenir perturbé en quelque sorte, une espèce de développement naturel et physiologique du cerveau et des relations interpersonnelles. C'est tout ça. C'est tout ça. En vérité...
Il vient de toucher son portable. Parce qu'il sonnait. Voilà. Honte à vous. Allez-y.
Et donc, on a affaire à quelque chose de l'ordre de la perturbation d'un système physiologique qui normalement, en dehors du portable, a cette capacité à pouvoir aller tranquillement dans ce qui est naturel. Parce que le cerveau grossit en étant stimulé par l'interaction.
Parce que c'est ça que je voudrais aussi souligner, que j'ai trouvé non seulement intéressant, mais surtout très honnête dans votre rapport. Il y a des choses dont on n'est pas sûr, c'est-à-dire les conséquences sur le neurodéveloppement. On ne peut pas dire, effectivement, il y a une conséquence sur le neurodéveloppement. C'est des choses, vous le dites, qui nécessitent d'être encore approfondies. Mais effectivement, ça n'empêche pas la lumière bleue, donc les problèmes de sommeil, donc les problèmes de concentration, donc la sédentarité, donc tout ça. Qu'est-ce qu'elle en dit, Servane Mouton, madame la neurologue?
Il y a quand même, sur le côté impact de l'usage des écrans chez les petits-enfants, la difficulté est d'aboutir à une relation de causalité. Mais aboutir à une relation de causalité, enfin, démontrer une causalité, ça prend du temps. Il faut des grandes cohortes, il faut temps, il faut de l'argent, etc. Ce qui a fait que pendant 100 ans, on n'a pas dit que le tabac était addictif et cancérigène et source de maladies cardiovasculaires. Le lobby nous disait, il n'y a pas de relation de causalité, vous parlez d'association. Peut-être que je fais un raccourci, mais pour certains points, en tout cas, des écrans, il y a cette dimension-là, qui est, on parle d'association entre une exposition excessive aux écrans et des perturbations du langage, de l'attention, des compétences socio-relationnelles, et on dit, on ne parle pas de causalité. Ok, mais il y a quand même beaucoup d'indices pour des effets, peut-être faibles, peut-être pas directement en lien avec l'usage des écrans, mais peut-être avec le fait que ça prend du temps sur des interactions, sur d'autres apprentissages. Mais en tout cas, il y a une association négative entre l'exposition aux écrans chez des enfants de moins de 5 ans, moins de 6 ans, et un moins bon développement cognitif sur le plan du langage et de l'attention, notamment.
C'est intéressant que vous avez fait la comparaison tout à l'heure avec l'alcool, vous faites la comparaison maintenant avec la cigarette, mais là aussi, moi aussi, j'y vois un lien. L'une des raisons pour laquelle on a mis autant de temps à dire « oui, la cigarette est très dangereuse pour la santé, même elle c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de lobby derrière, et quand on regarde comment fonctionnent les réseaux sociaux aujourd'hui, etc., on se dit que la difficulté sera au fond la même pour pouvoir dire oui, il y a danger à ce moment-là. On va écouter deux de nos auditeurs l'un après l'autre. C'est d'abord vous, Jean-Michel, bonsoir.
Bonsoir, je vous appelle donc pour la raison suivante. Alors, ça n'aura peut-être pas tout à fait de relation avec le sujet qui est un petit peu évoqué. Je vous explique. Je suis élu d'une commune de 750 habitants et l'équipe d'enseignantes, enfin le corps des enseignants, nous sollicite commune pour leur financer un tableau blanc, un TBI, un tableau interactif pour les écoles maternelles, donc de petite à grande section. Donc l'équipe municipale est assez dubitative. Oui. Personnellement, je suis quand même assez perplexe parce que la motricité fine pour apprendre à écrire, je pense pas que ça puisse faire par un TBI. C'est le vocable. Donc voilà, je voudrais avoir l'avis de vos experts sur cette problématique-là.
Merci beaucoup, Jean-Michel. Questions précises et réponses précises dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on écoute Victoria. Bonsoir, Victoria.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors moi ce que je voulais souligner, c'est ce qu'ont dit vos intervenants juste avant par rapport à l'addiction. C'est-à-dire que je suis enseignante et en effet, tout ce qui a été évoqué...
Et en maternelle aussi, Victoria, on est d'accord?
Oui, c'est ça. Okay, alors, je n'ai pas moi des maternelles, mais je suis dans une toute petite école, donc j'ai accès à ces élèves-là. Et en effet, on constate dès la maternelle que des enfants qui sont très régulièrement devant les écrans, parce qu'on le sait en discutant avec leur famille ou avec les enfants eux-mêmes, développent quand même des difficultés à entrer dans le langage, à accéder au langage. Et émotionnellement, c'est des enfants qui ont plus de mal que les autres aussi à se contenir. Et en effet, moi, j'ai tendance à dire qu'on a l'impression qu'ils sont en manque. Après, j'ai pas du tout les compétences pour le juger, mais ça donne vraiment cette attitude-là d'enfant qui a besoin d'exploser.
Merci beaucoup, Victoria. C'est intéressant la comparaison avec le manque, Amine Benyamina.
Bien sûr,
vous en pensez?
Oui, évidemment, le manque est un des mécanismes constitutif de la dynamique addictive. C'est ce qu'on l'appelle par un savant qu'on appelle le craving, le sentiment irrépressible de vouloir consommer ou de vouloir utiliser. Et puis, si on prend le temps de laisser passer ce manque, ça passe. Si on ne prend pas de laisser passer le manque, ben on reconsomme et on est dans une fuite en avant.
Alors c'est intéressant, donc deux auditeurs qui ont dans leur entourage ou dans leur travail des enfants très très jeunes. Il y a donc ce témoignage et cette crainte du manque dont nous parlait Victoria à l'instant. Et puis Jean-Michel, lui, l'élu dont les institutrices dans sa commune voudraient acheter un tableau, vous spontanément, un écran interactif, vous spontanément vous répondez non, en maternelle ou...
La réponse est dans le rapport qu'il peut télécharger sur le site de l'Élysée. Okay. Je vais laisser
Servane Mouton, allez-y.
Nous avons vraiment convergé sur cette notion que en maternelle, aussi par souci de cohérence avec le message qu'on délivre aux parents, c'est-à-dire pas d'écran en maternelle, et donc, quelle qu'elle soit, pas de tablette.
Voilà.
Pas d'écran.
Et pour que les choses soient très claires, pas d'écran, ça veut dire pas d'écran, c'est-à-dire c'est pas de téléphone, mais voilà, c'est pas non plus de tableau interactif, c'est rien de tout ça.
C'est parce que c'est en particulier en lien avec les impacts sur l'œil, sur la vision, et donc il faut en protéger les enfants de moins de 6 ans.
Ça s'appelle les bornes d'âge. Et alors, à quel âge on peut commencer un dessin animé, par exemple ? Encore une fois, pour les parents, les jeunes parents qui nous écoutent.
C'est ce qu'on a mis dans le rapport, c'est-à-dire que avant 3 ans, on renforce la recommandation qui était déjà en vigueur de ne pas exposer les enfants aux écrans. Voilà,
du
jusqu'à
tout.
Cet âge.
Quel que soit l'écran. Mmh.
Quand ça on dit écran, c'est tout. C'est la télé, c'est le smartphone, c'est la tablette, c'est voilà, pas d'écran. Bon. On peut développer, mais voilà, c'est la recommandation. Entre
il y a, 3, y a des alternatives qu'on propose, évidemment.
Oui, et après, entre 3 et 6 ans, c'est de dire que c'est déconseillé. En effet, aussi pour ces raisons somatiques, le côté visuel notamment, et puis pour le principe de précaution également, par rapport à ces alertes qu'on a sur le côté du neurodéveloppement, par rapport au fait que ces contenus qui peuvent stimuler beaucoup le système de récompense peuvent le perturber d'une certaine façon, et que plus tôt on est exposé à ce type de contenu, le plus de chances ou de risques aussi on a, si cette exposition est régulière, répétée, d'avoir cette appétence après pour retrouver ce type de contenu. Donc on a dit entre 3 et 6 ans, plutôt déconseillé en fait, mais en sachant que probablement elle surviendra quand même, alors que ce soit accompagné par un adulte, avec des contenus à valeur éducative, et que ça reste occasionnel, clairement pas tous les jours.
Et c'est ça que vous dites aussi d'ailleurs dans ce rapport, c'est qu'il faut responsabiliser tout le monde à la fois, c'est-à-dire moi ça m'ennuierait qu'on mette une pression terrible sur les parents, les pauvres, parce que parfois c'est quand même très compliqué, mais il y a les parents évidemment, il y a l'éducation nationale, on en a touché un mot là avec notre ami élu, mais il y a les administrations, au fond il y a l'éducation nationale, il y a tout le monde en fait.
Non, mais... En vérité, qu'est-ce qui se passe ? Le président de la République installe une commission, on a rendu un rapport, mais on est finalement un peu fasciné par ce système qui est arrivé très vite, qui s'est développé très vite. La technologie est devenue omniprésente, omnisciente, omnipotente. Et elle nous a facilité la vie et petit à petit, on se rend compte qu'il y a quelques effets pervers sur lesquels il faut se réveiller. Et les enfants deviennent la cible, d'une certaine manière, d'un commerce de captation. C'est à ce moment-là. Et derrière ce commerce de captation, il y a toutes les problématiques sociales et sociétales qui en découlent, notamment, par exemple, la notion de vérité, de liberté, de fake news, de manipulation. Non, c'est tout ça qui est la conséquence d'un système qui a asservi une partie de notre société.
Et effectivement, on est là, pour le coup, sur les contenus également, et c'est important de parler aussi des contenus. Vous avez cette phrase en préambule, dites donc, c'est une sacrée phrase quand même. Vous dites, après 3 mois de travaux, la commission a acquis la conviction qu'elle devait assumer un discours de vérité pour décrire la réalité de l'hyperconnexion subie des enfants et des conséquences sur leur santé, leur développement, leur avenir, mais aussi pour notre avenir, celui de notre société, celui de notre civilisation, peut-être même celui de notre humanité. Waouh !
Ben oui. On a été...
Vous dites que vous avez été bousculé, en faisant l'étude.
C'est le sentiment que nous avons.
La question du numérique est très transversale. On est bien forcé, obligé de faire ce constat qu'il est omniprésent et que cette omniprésence n'a pas été concertée, n'a pas non plus été réfléchie. Il a été déployé sur tous les plans, récréatifs, professionnels... du coup, il envahit les sphères privées et les sphères professionnelles, l'espace public. Tous les espaces sont occupés par le numérique sans qu'il y ait une concertation, une réflexion. Et l'enfant, et la place de l'enfant dans cet univers-là, comme dans d'autres endroits, on en a parlé un petit peu dans le rapport des rythmes scolaires, la vie, en fait, n'a pas été organisée en mettant le bien-être de l'enfant au centre des préoccupations. Et étant donné les enjeux qui se présentent dans la vie virtuelle, dans la vie numérique, qui sont en fait les mêmes que dans la vie réelle, sans qu'aujourd'hui il n'y ait aucune régulation qui les protège des rencontres qu'ils font, des contenus auxquels ils sont confrontés, force est de constater qu'ils n'ont pas été mis au centre des préoccupations. Et qu'aujourd'hui, ça devient une urgence. Nos enfants sont notre avenir, et leur avenir se joue maintenant.
Bonsoir Tiphaine.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi, je suis la maman d'un petit garçon qui va avoir 2 ans cet été et qui a une partie de sa famille à l'étranger. Mmh. Et du coup, peut-être 2 à 3 fois par semaine, on fait des petites visios, alors pas forcément longues, mais pour lesquelles du coup, il voit sa famille à distance. Pour le reste, on a banni les écrans, mais Il reste ça. Et du coup, bon, je pense que vous avez en partie répondu à ma question, mais je me demandais s'il y avait une gradation du danger par rapport à l'usage en fait qui pouvait être fait.
Merci beaucoup Tiffaine. Moi je crois qu'on n'a pas répondu encore à votre question parce qu'il y a vraiment une différence entre aller sur un écran y compris, on a bien compris ça pour le coup pour un dessin animé, et pour parler à sa famille de temps en temps, on a au-dessous de 3 ans.
C'est sûr, mais on l'a dit, accompagner, c'est la présence d'un adulte. Il y a une fonction particulière.
Mais même à cet âge-là, je veux dire, c'est pas le même genre de réaction qu'on provoque de toute façon chez un tout petit garçon ou une petite fille quand il voit ses grands-parents sur un écran.
L'association américaine de pédiatrie a abaissé le seuil à 18 mois pour les visioconférences.
Même pour les visios, ouais.
On mettrait juste cette prudence par rapport à la vision. Donc, si ça a lieu, bien sûr, ça n'a pas le même impact. Que de voir un contenu, plus choquant, etc. Pas trop près des yeux, et puis pas très longtemps non plus, quelques minutes.
En gros, la philosophie.
Ça reste du lien familial, voilà.
La philosophie, c'est que ce n'est pas quelque chose de banal et d'inoffensif. Il faut avoir conscience que cet outil qui s'est installé de manière pernicieuse et qui n'a jamais fait l'objet d'aucune critique peut porter en lui à la fois ce que l'on sait, c'est-à-dire la modernité, la facilité, mais vraiment une révolution pour l'humanité, mais en même temps, il y a ces aspects qui, de plus en plus, sont renseignés de manière claire et scientifique, avec des données probantes. Évidemment, on n'a jamais dit qu'il fallait retirer le numérique.
Bien sûr.
Tout à l'heure, on a remis le rapport, on a discuté avec
Non, puis vous dites aussi ministres. La source de connaissances que c'est. L'idée, c'est pas effectivement de
raisonner,
retourner au dictionnaire.
Raisonner.
On adore les dictionnaires.
Avoir un certain nombre d'éléments sur lesquels on a des données précises qui sont délétères et pouvoir les isoler et peut-être aussi réfléchir aux alternatives.
Question d'Amélie sur WhatsApp qui dit comment on fait dans une fratrie avec des enfants qui ont des âges différents.
Bon âge.
C'est toujours plus facile à dire qu'à faire.
Ouais.
Bien sûr. Mais comme
qu'on
ça.
Qu'on habite dans un appartement qui fait 3 pièces, enfin, il n'y en a qu'une où il y a la télé, où il n'y a pas. Enfin, vous voyez.
Comme ça, en tout cas, en médecine et globalement, quand on veut protéger, on prend la vulnérabilité du plus vulnérable. Donc,
c'est le niveau se calme sur le plus vulnérable.
Voilà.
Si on a des enfants qui ont 8 ou 10 ans sur lesquels on peut réguler, on leur dit ouais, mais toi, t'as un petit frère qui a 2 ans, donc tu regardes, t'auras pas de téléphone, t'auras pas de tablette et tu regarderas pas la télé, c'est rude.
En tout cas, tu ne le feras pas en présence de ton petit frère et tu ne le feras pas quand il est à côté de toi, ou tu iras t'isoler, ou je m'occupe du petit frère. En tout cas, il faut trouver des solutions. Les écrans n'ont pas toujours été là. Les fratries existaient déjà avec des activités variées. Et je pense qu'il y a juste cette prise de conscience pour reprendre le contrôle de ces usages. Ça n'est pas.
C'est ça l'idée. Je ne voudrais pas qu'on culpabilise en fait les parents qui ont des enfants qui ont une douzaine d'années, etc. Enfin voilà, et qui font un peu attention. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, et j'entends exactement ce que vous dites. Et vous êtes neurologue. Enfin, vous savez exactement de quoi vous parlez. Et après, j'imagine dans l'appartement d'Amélie, par exemple, qui vient de nous appeler, il y a 3 enfants, il y a une pièce principale, il y en a un qui a 13 ans, qui a eu son portable. Enfin, c'est compliqué, quoi.
Autour de cette table avec la norme actuelle, c'est-à-dire il n'y a pas de critique. Il n'y a pas de critique à avoir au sujet du numérique parce qu'il nous amène tellement de bienfaits, tellement de facilités. Le principe de dénormalisation, il faut l'intégrer comme on l'a fait pour le tabac. J'avais pris cet exemple. Il y a 20 ans, qui aurait pensé qu'on allait éviter le tabac partout ?
J'entends ce que vous dites.
Y compris dans les espaces extérieurs.
On est tous partis en vacances avec des parents qui fumaient et les vitres étaient fermées. On ne se posait pas la question. Aujourd'hui, on se la pose.
Complètement.
On peut effectivement peut-être avoir une attitude différente vis-à-vis des écrans. On a Karim qui est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Karim, vous êtes...
Merci de prendre mon appel.
Et vous êtes pile sur une des questions qui est notée dans le rapport. Allez-y.
Je suis content alors. Ma question, en fait, c'est plus une remarque. J'ai un enfant qui est au collège, en 6e, à qui on a remis une tablette en arrivant en début d'année, à qui on demande le soir de regarder sur Pronote ses devoirs pour la suite de la semaine, et à qui on demande peut-être aujourd'hui de ne pas devenir addict aux écrans. Or, il l'utilise au collège, il doit l'utiliser le soir en rentrant, et à la fin, on me dit il ne doit pas les regarder.
C'est une vraie bonne question, Karim, merci beaucoup. Vous le mettez dans le rapport, Pronote, les ENT, les espaces numériques de travail.
On a questionné le ministère de l'Éducation, concernant cette contradiction. Mmh. On a même montré des limites des ENT.
Et Gabriel Attal dit qu'ils doivent balayer devant leur porte, fermer
complètement. Donc on a posé ce cadre et je pense qu'ils vont commencer à réfléchir parce qu'on l'a bien, bien signalé hein, dans notre rapport. D'ailleurs, les auditeurs peuvent aller le télécharger. Mmh. La partie éducation et la partie ENT a été longuement débattue. Évidemment, il a fallu vraiment trouver des espaces, mais il y a quelque part une contradiction. Et pour ceux qui disent, mais les ENT, pronos, tout ça, c'est extrêmement important, on dit oui, mais dans un cadre précis, à des heures précises.
C'est ce que
et
j'allais
pour
dire.
Des tâches précises.
Et il y a parfaitement moyen, on sait faire ça.
Et on peut paramétrer.
Exactement, de paramétrer, donc de dire que l'accès, c'est entre telle heure et telle heure, jamais après telle heure, ou jamais avant, etc.
Et
ça, puis, c'est possible de paramétrer.
Bien sûr, et puis il y a des situations qui sont tout à fait utilisées, utilisables par les enfants, qui disent, je rentre au collège, j'ai besoin d'un téléphone, parce que pour avoir mes notes, pour notes... Voilà. Donc là-dessus, il faut vraiment anticiper, réfléchir et se mettre en marche.
Et alors, en parlant justement, quand vous êtes dans les bornes d'âge, vous dites qu'effectivement, à partir d'un certain âge, on peut accepter non seulement le téléphone, mais l'accès au réseau, mais simplement les réseaux sociaux qui ont une conception éthique. Et pardon, mais je ne sais pas ce que c'est un réseau social.
Ils existent, ils existent, évidemment. C'est ceux qui ne font pas...
Bon, mais ce que ça veut dire, clairement, c'est que ce n'est pas Facebook, ce n'est pas Twitter, ce n'est pas Instagram, ce n'est pas tout ça. Voilà, d'accord.
C'est là qu'intervient une régulation qui doit se faire à l'échelle européenne, qui a déjà commencé avec le DSA qui est rentré en vigueur récemment et qui vise à assainir les pratiques des plateformes qui aujourd'hui ne sont clairement pas éthiques. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais en tout cas, sous la forme d'une autorégulation et d'une volonté propre, clairement ça ne marche pas. Donc il faut qu'il y ait des contraintes, il faut qu'il y ait des sanctions, il faut qu'il y ait des amendes. Et c'est un chemin qui est en cours.
Mmh. Et c'est un chemin qui sera long. Des réseaux sociaux éthiques, s'ils existent, il faut qu'il y ait beaucoup de gens dessus. Parce
c'est
que le principe du réseau social,
exactement.
C'est qu'on se parle les uns les autres. Donc quand on est tout seul sur son réseau social, c'est beaucoup moins drôle.
Il y a les réseaux éthiques, il y a ceux qui existent maintenant. Et puis il y a peut-être, on espère, avec le DSA en tout cas, la contrainte de ceux qui existent et qui sont déjà très populaires de s'aligner sur des designs éthiques.
Et qui ne tirent pas le profit sur l'économie de la captation.
On l'a vu récemment, par exemple, l'Europe a interdit cette fonctionnalité sur TikTok qui était plus je regarde des vidéos, plus je gagne des points.
C'est
exactement,
ça. TikTok Lite,
donc preuve qu'effectivement, les choses parfois peuvent fonctionner. Baïja est à Bordeaux, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors ça tombe effectivement à pic par rapport à votre dernière intervention. Ma question portait sur le fait que, alors on faisait l'analogie avec le tabac, il a quand même fallu la loi E20 qui interdit la publicité du tabac, l'interdiction de fumer dans des lieux clos, etc., pour qu'il y ait une prise de conscience. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment des hommes politiques et quel est le pouvoir politique pour interdire toute utilisation abusive auprès des enfants, qu'ils soient en bas âge ou des ados, par rapport au fait que les GAFAM, c'est des puissances financières tellement énormes que je ne vois pas un État. Alors c'est vrai qu'il y a des limitations sur les fonctionnalités TikTok, la DSA, etc. Mais en fait, pour moi, c'est pot de terre contre pot de terre. Comment un simple citoyen, comment un homme politique, et quels sont les recours, puisque le rapport a quand même été commandé par le président de la République française, comment les hommes politiques, quels sont leurs moyens pour lutter contre ces puissances financières qui... ont un poids tellement important dans l'économie des pays.
Merci beaucoup, Baïja, pour votre question. Et c'est vrai, Amine Benyamina, que c'est évidemment une bonne question. Vous pouvez faire toutes les préconisations que vous voulez. Est-ce qu'à un moment, y compris la puissance de l'État,
bien sûr. Alors,
peut
je suis
avoir
moins,
un impact.
Je suis moins pessimiste que je n'ai pu l'être il y a 3 mois. Quand on voit la mise en place du DMA-DSA, c'est déjà beaucoup. On contraint quand même des grandes majeures à payer. Et je pense que lorsqu'il y a un mouvement qui peut emporter, pas que la France, mais même l'Europe...
Il y a une réglementation européenne.
Oui, on sent quelque chose. Franchement, je suis moins pessimiste. Il peut y avoir un moyen de contraindre ces grandes majeures. Il y a le droit international qui est très clair. Il y a aussi les parlementaires européens qui peuvent aussi se saisir de ça. Et évidemment, je suis moins, je le répète, moins pessimiste que je n'ai pu l'être au départ.
Est-ce que vous êtes, Servane Mouton, j'allais vous demander si vous étiez aussi optimiste que votre collègue Amine Benyamina.
Je dis moins pessimiste, optimiste.
Enfin, voilà, pardon.
Moi, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre, et c'est ce qu'on a aussi beaucoup voulu faire ressortir dans le rapport, de quelque chose de systémique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que de l'État ou des États d'être efficace. Il faut que les solutions viennent de partout. Mmh. Et l'État en est une. Enfin, l'instance étatique européenne, en l'occurrence, puisqu'à l'échelle nationale, donc, clairement, on peut rien faire sur des multinationales. Donc, l'échelle européenne peut faire, et elle a commencé à faire. Mais les citoyens aussi peuvent faire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont interdits avant l'inscription.
Est interdite. Et normalement.
Dans
sauf
la loi,
pour l'instant, il n'y a rien de technique qui
est... Je vais terminer.
Pardon.
L'inscription est interdite avant l'âge de 13 ans, sauf accord parental. Ouais. Et à ce moment-là, c'est 15. Si vous êtes parent et que vous constatez que votre enfant est inscrit, que vous n'avez jamais donné votre accord, vous pouvez porter plainte. Si jamais un certain nombre de parents se mobilisent, se réunissent et font remonter ces plaintes, que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle américaine, puisque ce sont des entreprises américaines essentiellement, ça peut finir par avoir des conséquences. C'est vraiment cette idée de reprendre le pouvoir sur des éléments qui... sans aucune vergogne, sont devenus, enfin des éléments des entreprises qui sont sans aucune vergogne, sont devenues les entreprises les plus puissantes que la Terre ait jamais portées, au détriment, ou en tout cas sans aucun égard, pour la santé et la sécurité de leurs usagers. Nous ne sommes pas impuissants face à ça, en réalité.
On parle de cette commission écran rendue aujourd'hui, qui a rendu son rapport aujourd'hui avec les deux coprésidents, Amine Benyamina, avec Servane Mouton dans le téléphone sonne. Et avec vous, Catherine, bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à vous inviter et merci pour les émissions de France Inter et la vôtre en particulier. Donc moi j'ai téléphoné ce soir parce que votre thème c'est le danger de l'usage des écrans pour les enfants, mais je voulais aussi parler du danger pour les enfants de l'usage des écrans par leurs parents. Et j'ai été témoin d'une scène dans un train où par quatre fois, un enfant a posé une question sur un assemblage de lettres. C'était « Maman, qu'est-ce que ça fait R et P ?» et qui a dû renoncer à sa question parce que la maman, sur son téléphone, ne répondait pas. Et j'ai trouvé ça absolument dramatique.
Merci beaucoup, Catherine, pour votre remarque. Elle a raison, Amine Benyamina, Catherine. Ouais. Et quand on parlait de la responsabilité de chacun, c'est ça que ça veut dire, en fait.
Ben oui.
Ça ne veut pas forcément dire interdiction, etc. Ça veut dire « je me rends compte d'eux et je change aussi ma propre relation à l'écran ».
Complètement. Il y a des termes pour définir cela. C'est
la technoférence.
Ça s'appelle la technoférence. Et puis, les adultes sont victimes de technoférence. Ils oublient. Ils oublient qu'ils sont un mauvais exemple pour les enfants.
Quand un adulte prend un livre, un enfant a envie de prendre un livre.
Complètement. On a un effet modèle, de fait, notamment les parents. Et on doit, comme vous l'avez dit, balayer chacun devant sa porte. C'est la réalité. Il y a quand même un impact sociétal qui est absolument édifiant.
Vous avez rencontré, vous dites, à peu près 150 enfants. Moi, je suis curieuse de savoir ce qu'ils vous ont dit et surtout ce qu'ils vous ont dit quand ils se sentent prisonniers eux-mêmes,
aidez-nous.
En fait. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous disent et qu'est-ce qu'ils ont déjà pu réaliser, y compris quand ils ont 11 ans, 12 ans, 13 ans?
Mais ils ont conscience qu'ils sont un peu captifs de ce système. Ils demandent d'être aidés. Évidemment, c'est une demande qui est un peu ambivalente, mais qui a été formulée. Ils ont conscience de ça.
Ils demandent d'être aidés, en effet, d'être protégés contre des contenus qui les ont choqués. Beaucoup expriment d'avoir été confrontés à des contenus pornographiques, violents, qui les ont plus que choqués, qui les ont blessés, qui les ont meurtris en réalité. Et qui regrettent bien sûr que ça ait lieu et qui appellent à ce que une protection soit efficace pour les plus jeunes, pour leurs petits frères, pour leurs petites sœurs. C'est quelque chose qui est exprimé.
En gros, ce qu'ils vous disent, c'est trop facile d'avoir accès à des choses qui sont dingues. Pourquoi est-ce que moi, j'arrive à avoir accès à ces choses-là? Protégez-moi de ça.
Je ne devrais pas y aller.
Oui, exactement. Je ne devrais pas y avoir accès, j'aurais pas dû le voir. Ouais.
Je cherchais quelque chose sur une femme toute nue et je tombe sur un contenu porno. C'est pas ça que je voulais voir. L'autre chose qui...
La curiosité est inhérente à cet âge de la vie, en même temps.
Il
faut une réponse là-dessus.
Qui était importante aussi, c'est la question des stéréotypes de genre, l'image de la femme qui est véhiculée par les réseaux sociaux et qui a été très marquée dans les entretiens avec une image en fait soit dégradante ou dégradée, soit une forme de soumission avec des filles qui exprimaient clairement qu'elles ne se comportaient pas de la même façon parce qu'elles avaient été confrontées à le renvoi de leur image, etc.
Enfin,
quelque chose qui est très fort.
Marianne, au Standard, nous pose cette question que j'avais sur le bout de la langue tout à l'heure et que j'ai oublié de vous poser. Merci Marianne. Est-ce que pour le cinéma, c'est pareil pour les autres que pour les autres écrans? Est-ce que ce sont les mêmes recommandations? Il y a quelque chose d'incroyablement festif à montrer un enfant, même plus petit, son premier moment de cinéma, l'expérience du grand écran, etc. Est-ce que ça rentre dans vos cases ou est-ce que là aussi on se dit non, reculez.
Pour nous, le cinéma,
c'est toujours quelque chose d'exceptionnel.
Oui,
en plus.
Mais le cinéma reste avec la même règle pour les 6 ans, ne serait-ce que pour les contenus qui en général doivent être quand même ajustés à ce que l'enfant est, au côté impressionnant, etc.
Ouais.
Donc ça restera la même règle. Après, il n'y a pas les mêmes enjeux en termes de sédentarité, de vision, etc. Simplement parce que ça reste quelque chose d'exceptionnel généralement le cinéma. Donc ça reste une sortie, ne serait-ce que par son coût qui limite son usage.
On a Frédéric qui est à Oslo, dites-moi, apparemment. De la même manière que sur les paquets de tabac, il y a des messages d'alerte. Est-il possible d'afficher des messages virtuels, des messages virtuels d'alarme, sur nos téléphones, par exemple?
C'est pas impossible. Hein.
Ça existe déjà,
surtout dans les pays scandinaves, je pense qu'ils ont fait une très grande marche arrière.
C'est pour ça que Frédéric nous appelle d'Oslo.
Très grande marche arrière là-dessus.
Mais est-ce que c'est marqué sur les... Vous achetez un smartphone, c'est marqué sur le paquet du smartphone, ou est-ce qu'il peut y avoir de temps en temps, quand vous dépassez, j'en sais rien, moi, 4 heures d'exposition par jour, un truc qui vient et qui dit attention, trop d'exposition tue?
Il y a déjà des alertes qu'on peut configurer pour être informé, en effet, quand on dépasse le temps qu'on s'était fixé. Bon, elles ont quand même leurs limites. Généralement, on dit OK, on les switch, enfin, on les fait passer et puis on continue. Mais en tout cas, elles existent. Après, il y a des projets des propositions de loi qui ont été faites par rapport à l'inscription sur des produits numériques d'une mention déconseillée au moins de 3 ans ou déconseillée au moins de 6 ans. Et là, on propose pour les smartphones ne convient pas à un enfant de moins de 13 ans, par exemple. Voilà. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas faites aujourd'hui, mais en tout cas qui sont possibles, qui peuvent être contournées si le produit est acheté sur Internet, etc. Mais il y aura, de toute façon, il y a des fuites possibles de tous les côtés, mais plus on met de balises et de barrières, de protection, plus on sera efficace à l'échelle systémique.
Ça fait des barrières pour cette économie nouvelle.
Et une prise de conscience quand les
collective.
Parents, effectivement, collective et surtout quand les parents ou même les institutions, effectivement, on entendait cette élue tout à l'heure, savent pas très bien où il faut se situer, où il faut dire oui, il faut dire non. Au moins, avec votre rapport, ça les aide à avoir quelques notions. Nathan, bonsoir.
Bonsoir Fabienne,
bonsoir
à tous. Bonsoir. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier pour vos émissions tout d'abord. Moi j'ai 20 ans, je suis en double licence économie philosophie à Nancy et je voulais vous parler un petit peu de tout ce que je vois autour de moi. À la faculté, dans le bus, dans le train, aussi avec mes amis. On voit que le téléphone est devenu complètement incontournable et vraiment on en a des usages qui sont vraiment très différents tous. Et moi, je sais que depuis un an, j'ai pris la décision de tout fermer. Vraiment, j'ai fermé tous mes comptes, j'ai arrêté l'utilisation des réseaux sociaux. Je suis vraiment désolée, je m'entends en boucle.
Ah oui, c'est vrai, je suis désolée. Oui, ça doit être très très désagréable.
Oui, du coup, j'ai un peu de mal à parler, mais je vais y arriver quand même.
C'est peut-être parce que, vous avez la radio est pas loin, non?
Non,
vraiment,
écoutez, j'ai tout
bizarre.
Coupé autour de moi.
Mais on vous comprend bien, Nathan, respirez.
Ok, bon, bah, c'est essentiel. Donc voilà, je disais que oui, on en a une utilisation qui est très différente et je vois que beaucoup de gens, et beaucoup de jeunes, surtout dans le bus, ont maintenant des écouteurs, sont rivés sur les réseaux sociaux tout le temps. Et je renvoie d'ailleurs aussi à une émission que vous avez faite en mars 2024 sur justement l'impact des réseaux sur la santé mentale, sur la santé mentale des jeunes et sur le fait aussi que les réseaux sociaux en avaient profité pour renforcer leurs offres avec le confinement, avec les Reels Instagram qui ont été créés en juin 2020 et puis les Shorts de YouTube qui ont été créés en septembre 2020. Et moi, ma question, c'était comment est-ce qu'on peut distribuer la responsabilité de justement tous ces contenus? On voit qu'il y a beaucoup d'acteurs, on a les plateformes, les États, on a les parents et surtout les créateurs de contenu. Est-ce qu'on peut les responsabiliser, justement, ces plateformes et ces créateurs de contenu? Parce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et puis aussi, sur les solutions proposées, on en a beaucoup entendu parler ces derniers jours, les empreintes bancaires, les pièces d'identité, pour vérifier si, justement, les tranches d'âge étaient respectées. Mais est-ce que là, il n'y aurait pas, justement, un risque pour la sécurité de nos données?
Et merci beaucoup Nathan, et vous avez raison, et c'est pour ça pour l'instant par exemple, parce que y compris sur les sites porno, l'idée de l'empreinte de la carte, on se dit bah c'est facile, on n'a qu'à faire ça. L'une des raisons pour laquelle on fait ça, c'est que effectivement attention aussi à ça, attention aux fuites de données, attention à la CNIL qui fait bien son travail bien aussi, etc.
Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les solutions techniques sont tout à fait existent, et on a le sentiment qu'il y a une mauvaise foi de la part des promoteurs pour les mettre en musique et les mettre en marche. Hein.
Sur un site porno, vous pensez qu'on pourrait interdire réellement l'accès aux mineurs si on le voulait ?
Ça va être fait. Il y a des l'Arcom a diffusé son comment ? Ah mince. C'est pas règlement, c'est son référentiel pour la mise en place de contrôle d'âge. Donc si c'est fait pour les... Ça peut être fait pour les moins de 18 ans, ça pourrait être fait pour les moins de 15 ans, ça pourrait être fait pour
surtout
les moins de 13 ans.
Complètement.
Ça pourrait être fait pour
Et pour répondre à la question de Nathan, et alors c'est vrai qu'on en avait fait une émission, on a même fait une journée spéciale à un moment, des créations de contenu qui sont bons et qui ne sont pas addictifs et qui ne sont pas...
Ça existe.
Ça existe. Mais effectivement, ce ne sont pas les grands mastodontes dont vous parlez, Servan Mouton, et on peut comprendre que les enfants, les ados aient envie d'être sur le même mastodonte que tous les amis. C'est là la difficulté.
Il y a le problème du format qui est poussé par ces plateformes, qui a été en effet vers les shorts, les très courtes vidéos qui sont en fait très efficaces pour capter l'attention. Après, sur la question du contenu en lui-même, ça pourrait être considéré comme un design non éthique, peut-être régulé via le DSA. Bon. Un petit peu de temps, et par contre sur le contenu c'est tout l'enjeu de la modération avec la mise en œuvre de moyens adaptés au nombre d'usagers et autres que l'intelligence artificielle.
J'encourage nos auditeurs à le lire votre bien rapport, sûr, et encore une fois ce sont des recommandations, ce sont des recommandations et ça permet aux gens de pouvoir se situer aussi dans leur famille, dans leur pratique et par rapport à leurs enfants. Merci beaucoup tous les deux, merci vraiment de votre présence, merci à tous pour vos nombreux appels. Voici Anna, elle a 5 ans et c'est elle qui détient la question des petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 5 ans. Je voudrais savoir où vont les déchets quand ils sont dans le camion poubelle. Merci, au revoir.
Et merci Anna, la réponse dans 3 minutes.
LCL présente Angle 9, la filiale immobilière de LCL.
Devine où j'ai trouvé mon appart.